Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau du TVR Ouest-France Politique en direct depuis l'espace Ouest-France et avec Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest-France. Bonjour Vincent.
Bonjour Stéphane.
Nous sommes très heureux de poursuivre notre tour d'horizon des listes engagées aux futures élections régionales et une nouvelle tête de liste région, bien évidemment cette semaine, avec Valérie Hamon. Bonjour.
Bonjour.
Valérie Hamon, vous êtes tête de liste de Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Vous êtes certainement l'une des seules listes à ne pas avoir mis Bretagne dans cet intitulé. C'est voulu, c'est revendiqué.
Bien sûr, on présente des listes dans toutes les régions, y compris aux Antilles. Elles s'appellent toutes faire entendre lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, parce que les travailleurs n'ont pas de patrie, pas plus que de région. Hein. Et donc, pour nous, c'est important de montrer notre camp social, de faire entendre notre camp social dans le cadre de ces élections, vu que les travailleurs ont largement payé pendant la crise sanitaire et ils vont continuer de payer durant cette crise économique qui s'aggrave. Et il est important de se faire entendre dans ces élections régionales.
La première question politique, Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest-France.
Alors vous êtes, je vous pose la question, peut-être la doyenne de ces élections régionales, parce que ça fait la troisième fois que vous vous présentez, donc 2010, 2015.
Pas en âge. Hein.
Ah non, pas en âge, ouais, pas en âge, en expérience, on va dire. Donc 2010, 2015, 2021, au moins c'est constant chez Lutte ouvrière, c'est toujours la même candidate. Au régional.
Je suis encore en activité, donc ouais, je peux encore défendre même mon point de vue au régional et puis dans bien d'autres des élections.
Oui,
bien
vous êtes
sûr,
au municipal à Rennes aussi.
Oui, mais vous savez, c'est une liste à la fois, c'est une liste où on a toutes nos listes, c'est pas que moi qui fait campagne. Oui. Là, on fait la liste avec nombre de militants qui sont sur notre liste. Il faut des têtes de liste. Mmh. Bon, ben moi, il se trouve que je suis tête de liste. Mmh. Maintenant, on est plutôt fidèle à nos idées. On change pas de comment dire. Nous, on n'est pas des girouettes, donc on y tient à ces idées communistes révolutionnaires. Donc, on les défend autant qu'on peut.
Alors, on va parler de la crise sanitaire. Donc, on a atteint les 20 millions, plus de 20 millions de Français qui sont vaccinés.
23 millions.
On voit aussi que ça s'apaise, c'est-à-dire qu'on peut rouvrir les restaurants, on peut rouvrir les bars. On voit bien qu'on peut plus circuler un peu plus normalement. Vous avez dit de cette crise sanitaire qu'elle avait révélé un miroir des inégalités sociales. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ou comment vous l'observez?
Bah, ça s'est vu sur plein d'aspects. Par exemple, ce virus-là, il touchait pas, il n'a pas touché de la même façon, même si tout le monde pouvait l'attraper d'une certaine façon. Quand on vit dans des quartiers populaires, en HLM, concentrés dans des petits logements ou au travail, où les travailleurs étaient contraints d'aller travailler pendant la pandémie, en pleine pandémie, dans les hôpitaux, mais pas seulement, dans les usines agroalimentaires, par exemple, même dans l'automobile. Donc, on voit bien que ça n'a pas touché tout le monde de la même façon. Par exemple, les élèves qui étaient contraints de faire les cours chez eux, à la maison, avec parfois pas de moyens informatiques. Mmh. Donc tout ça, ça coûte, c'est un budget d'avoir Internet, d'avoir un ordinateur en bon état, et puis parfois d'avoir des parents disponibles. Donc ça montre de toute façon que ça, c'est sûr que la crise, elle a touché les plus pauvres. Et puis surtout, le gouvernement, il a eu une attitude vis-à-vis des travailleurs, c'était marche ou crève. Quand il dit coûte que coûte, enfin toute la politique, quoi qu'il en coûte, pardon, toute la politique qu'ils ont menée, ça a été en faveur des plus riches, en faveur des grandes entreprises, aucune contrainte aux grandes entreprises.
Et là, l'exemple. Ils ont quand même. Enfin, le quoi qu'il en coûte, ils ont quand même financé, aider le petit artisan, les petites entreprises,
bien
les
sûr,
petits restaurateurs.
Heureusement, bien sûr.
Pour permettre
bien
à l'économie sûr. De ne pas s'effondrer. Il n'y a pas uniquement les grands groupes qui en ont profité.
Oui, mais les grands groupes, ils en ont profité beaucoup plus. Et par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de contraintes vis-à-vis d'eux. Parce que là, on parle du vaccin, parce que vous m'interrogez là-dessus aussi, sur la crise et comment s'en sortir. Bon, on sait tous que, bien sûr, que le vaccin, c'est ce qu'il faudrait. Et on pourrait en avoir eu plus tôt et bien plus de doses, bien plus vite. Comme les masques, comme tout ça. Mais il aurait fallu quand même contraindre, en ce qui concerne les vaccins, les laboratoires pharmaceutiques. Mmh. On ne sait même pas le prix que coûtent ces vaccins.
Pour les Français, il est gratuit.
Non, mais... Pardon, l'achat, nous, on ne le paye pas.
Mais
là, l'État, c'est de l'argent public, c'est de l'argent public qui est transféré à fond, dont on ignore les sommes, dans les laboratoires privés.
Mais est-ce que l'État avait le choix ? parce que s'il faut vacciner sa population. Je veux dire, en France, les tests PCR sont gratuits, les vaccins sont gratuits.
Il avait le choix d'imposer. Vous savez, on peut cet État-là, il est au service des grandes entreprises. Donc je pense que c'est même pas une question. Il aurait pu le faire, mais c'est le choix qu'ils ont fait, c'est de ne pas imposer quoi que ce soit aux industries pharmaceutiques. Ils auraient pu réquisitionner les entreprises pour produire plus de vaccins. Ils auraient pu lever le secret commercial sur les prix auxquels c'est vendu.
Parce que les Américains ont demandé à ce que ça soit levé, notamment sur...
Lever le secret de la fabrication de ces vaccins pour le produire en grande quantité dans toutes les entreprises disponibles pour le faire.
Est-ce que l'essentiel, c'est de savoir ça, ou est-ce que l'essentiel, c'est de vacciner gratuitement toute une population ? Aujourd'hui, à votre avis, dans l'opinion, lequel des deux curseurs, où vous mettez le curseur ?
Bien sûr, de vacciner gratuitement, sauf que quand même, vous avez vu la pagaille que ça a été par rapport aux chiffres annoncés au mois de février, au mois de mars. On était bien loin des chiffres annoncés par le gouvernement, et même encore aujourd'hui. Enfin, les anciens qui étaient contraints d'attendre des semaines pour pouvoir se faire vacciner au tout début. Vous ne pouvez pas le nier, c'est un fait.
Mais vous êtes aussi consciente quand même que on était en état de sidération lorsque c'est arrivé au mois de mars 2020, cette fermeture, on va dire, un peu des libertés. Personne ne pouvait imaginer une telle pandémie et de tels effets secondaires. Il a fallu aussi gérer. Pour un gouvernement, ça ne devait peut-être pas être facile. Il n'y a pas d'équivalent.
Si, il y a déjà eu des grandes pandémies dans le passé. Et dans des pays plus pauvres, c'est les pandémies du sida, par exemple, l'épidémie du sida. Enfin, si, il y a quand même eu. On en parle moins parce que ça ne touche pas autant l'Europe. Là, on en parle parce que ça touche les pays riches. C'est pour ça qu'on en parle, d'ailleurs. Maintenant, au-delà de la sidération, moi, je ne vais pas discuter sur la gestion, toutes les petites mesurettes qu'a pris le gouvernement. Ils ont fait quand même des choix. Et là, ce qu'on a vu, en tout cas, dans la réalité, c'est que si on s'en sort de cette pandémie, c'est grâce aux travailleurs. Parce que qui a fait tourner la société ? Qui a fait tourner la société pendant des mois et des mois ? Les infirmières et puis tout le personnel hospitalier qui pourtant manquait de moyens et manque encore beaucoup de moyens. Ils en réclamaient quelques mois avant la pandémie. Donc c'est eux qui ont fait tourner la société. Les livreurs, tous les travailleurs qui étaient dans les grandes surfaces, les caissières, ceux qui mettent en rayon, les chauffeurs de bus, ceux qui font la maintenance des trains, par exemple. Y a tout ça, tous ces gens-là ont fait que la société, elle a continué à tourner. Tous ceux qui ont continué à travailler.
On ne les a pas assez suffisamment récompensés, selon vous ?
Eh bien, ce que je dis, c'est que ça montre que c'est eux qui font tourner la société. C'est nous, les travailleurs, qui ont tourné la société. On nous fait payer la crise parce que, comme vous dites, il y a eu le chômage partiel. Ça a aidé certains petits artisans, bien sûr. Mais la sortie de tout ça, ça va être du chômage tout court. Il y a déjà plein d'entreprises qui licenciaient pas des petites. Regardez Codan. À Codan, la fonderie de Bretagne, qui a annoncé 350, la fermeture, 350 licenciements. Il y a aussi une entreprise Sunden, là, juste à côté de chez nous, à Tintignac.
Et puis
PSA, qui a viré. On peut en citer nombre. Alors, je vous cite des entreprises du coin, mais c'est comme ça dans tout le pays. Et sans parler de toutes les petites entreprises qui pourront sans doute pas refaire flot une fois qu'il n'y aura plus les aides de l'État. Je termine quand même sur mon idée. Nous, dans cette campagne, c'est que elle a démontré que ceux qui font tourner l'économie et qui font tourner la société, ce sont les travailleurs. Même pour la recherche du vaccin, c'est pas les laboratoires qui ont trouvé les vaccins. Ce sont les chercheurs et les ingénieurs qui ont mis tous leurs moyens en commun de différents pays à un autre, sans justement calculer d'entreprise en entreprise ou de façon chauvine. Eux, ils ont mis leurs moyens, leur énergie pour trouver un vaccin rapidement. Et ben, ça montre que les travailleurs, qu'ils soient ingénieurs, ouvriers ou employés, non seulement ils ont les moyens de faire tourner la société, mais nous, ce qu'on veut dire dans cette élection, ils peuvent le montrer en votant pour nous, eh bien, ils devraient la diriger, la société. Ils devraient être dirigés, et ça ne devrait pas être des actionnaires, une minorité d'actionnaires qui se sont enrichis, eux, pendant la pandémie, et qui vont continuer à s'enrichir, qui dirigent cette société.
Alors, vous êtes communiste révolutionnaire, on comprend pourquoi, sauf que la société est ainsi faite aujourd'hui. Donc comment, demain, tout changer ?
Vous savez, la société, elle a plusieurs, l'humanité a plusieurs millions d'années. Donc, il y a eu des changements, des révolutions. Moi, je ne dis pas que le capitalisme, il a quoi, 150 ans, 200 ans? Eh bien, il n'est pas immuable. La société capitaliste n'est pas immuable. Il y aura des révoltes. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Et là, en tout cas, en ce moment, là, c'est le moment d'y réfléchir, de s'organiser, de se compter, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, en effet, dans ces élections, nous, on pense que en votant pour ce camp social, en disant qu'on a conscience qu'on peut diriger la société, nous, demain, en tant que travailleurs, qu'il faudra exproprier la bourgeoisie, les actionnaires des grands groupes capitalistes, des banques, des grands groupes économiques, des groupes agroalimentaires, de l'industrie, eh bien, tout ça, on pourra justement en décider collectivement comment on l'organise cette société, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qui est utile pour l'humanité et non pas qu'est-ce qui rapporte à une minorité. Et ça veut dire évidemment de se débarrasser du capitalisme. Mais il faudra des révoltes, alors, il faudra une révolution.
Vous êtes en train de dire, vous comptez, aux dernières élections régionales, Valérie Hamon, vous étiez tête de liste région, votre score 1,37.
Oui.
C'était une déception, vous comptez faire beaucoup plus cette fois-ci?
Vous savez, on sait qu'on est un courant dans le contexte actuel minoritaire, mais on est un courant qui persiste et qui est là depuis longtemps. Et on ne sait pas ce qui peut faire changer et faire qu'il y ait des colères qui explosent dans le monde ouvrier. Parce que la colère, elle est quand même accumulée. Là, en plus, vous voyez, il y a quelques manifestations là, ces dernières semaines, malgré que le Covid est encore là. Et on était quand même vachement sous la, comment dire,
la coupe de
l'épidémie, du couvre-feu, de toutes les sanctions qu'il pouvait y avoir. Et puis, il y avait quand même aussi la peur de la maladie, mais beaucoup de répression quand même. Eh bien, il y a des travailleurs qui manifestent parce qu'ils sont attaqués. Alors, c'est peut-être pas de la grande colère, c'est peut-être minoritaire en ce moment, mais tout ça peut changer. Regardez les travailleuses des EHPAD là, qui manifestaient la semaine dernière. Alors elles ont pourtant été en première ligne. Et qu'est-ce qui se passe? On a décidé, Rennes Métropole a décidé d'enlever 3 jours et demi de congé à ses travailleurs territoriaux. Et c'est pas que.
Parce que c'est pour se mettre, c'est comme dans toutes les villes de France, c'est pour se mettre en conformité. Il y a une règle qui est passée. À Paris, c'est la même problématique.
Voilà. Bon. Mais c'est partout. C'est des décisions de l'État. Mais Rennes Métropole ne s'y est pas opposée. Les élus ne sont pas du côté des travailleurs. Les élus, ils sont contre les travailleurs. Ils appliquent les décisions de l'État, dans les régions,
quand vous parlez
comme dans les collectivités.
Je reviens sur la notion de révolte. Vous parlez de révolte. La révolte peut aussi faire appel parfois à la violence. On l'a vu à Rennes, il y a eu beaucoup de révoltes contre des décisions gouvernementales. Est-ce que cette révolte peut se faire sans violence?
Pour l'instant, la violence, elle est du côté. Je ne sais pas ce que vous appelez
sûr que
la
vous
violence,
réponse, hein,
mais qu'est-ce que
non,
vous appelez
les lois M. Khomri,
la casse, le fait d'aller taper, casser, parce que
dégrader.
Après, il y a eu des dégradations, et ce sont d'ailleurs des travailleurs qui le lendemain nettoient les dégradations de ceux qu'on.
Nous, à Lutte Ouvrière, de toute façon, si vous voulez parler de ces violences-là, ce n'est pas nos méthodes de manifestation. Moi, je condamne à chaque fois. Par exemple, ce qui s'est passé au 1er mai,
il y a eu un défilé
des sortes de, on ne sait qui d'ailleurs, ont attaqué, au nom de soi-disant les travailleurs, ont attaqué des militants qui manifestaient de la CGT, notamment le 1er mai, les ont attaqués physiquement, par exemple. Ça, c'est évident que ce n'est pas des méthodes du mouvement ouvrier. Nous, on pense que c'est collectivement qu'il faudra se défendre face aux attaques qu'on subit. Mais vous comprenez, la violence, elle est aussi sociale. Quand on perd son emploi en ce moment, c'est terrible. La jeunesse, quel avenir elle a? Moi, j'entendais l'autre jour des jeunes, ils n'ont même plus. Ils viennent de modifier, vous savez, pour obtenir le chômage. Les conditions se sont durcies. Alors, ceux qui ont perdu leur travail là, dans ces derniers mois, ils n'ont rien. Et ils n'ont pas forcément le RSA. Alors, comment on vit? Vous comprenez?
Si je peux juste apporter une petite nuance. On rencontre aujourd'hui le patron de Bridor, les usines Bridor. Ils cherchent des centaines de salariés pour travailler dans les usines qui fabriquent des croissants surgelés pour tous les hôtels. Les restaurations à Saint-Malo cherchent des bras pour travailler dans la restauration. Donc, il y a effectivement des plans sociaux, mais il y a également des gens qui recrutent par dizaines des salariés pour pouvoir
faire tourner jusqu'à 80 000 recherches d'emploi.
Et au tribunal de commerce, on nous dit que la santé financière des entreprises va bien parce que l'État a aidé très fortement. Il y a peut-être effectivement des craintes dans les mois qui vont venir. Vous l'avez cité notamment avec Tintignac, avec l'usine Sandel. Mais d'un côté, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi et de l'autre, il y a des entreprises qui recrutent par dizaines en CDI. Donc comment on fait pour réguler tout ça ? Parce qu'il y a de l'emploi quand même, il y a des gens qui recrutent.
Oui, enfin peut-être, tant mieux s'ils recrutent. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait un travail. Tout le monde ait le moyen de vivre. Donc, il faudrait pour cela répartir le travail entre tous. Mmh. Il faudrait diminuer les cadences plutôt que les augmenter, comme ça se passe chez Sonden, par exemple, ou à PSA, en maintenant les salaires, pour embaucher tout le monde. Et je reviens quand même à l'exemple des fonderies de Caudan, parce que la région les a subventionnées il n'y a pas longtemps.
Oui, c'est vrai.
Plusieurs millions d'euros qu'ils ont touchés, soi-disant, pour le maintien de l'emploi, où c'était suite à l'incendie, la reconstruction. Ça appartient au groupe Renault, qui a fait 24 milliards de profits ces dernières années. Alors, vous comprenez bien que là, maintenant, les dirigeants de la région, ou tous les têtes de liste, pratiquement, ils sont en train de se précipiter au chevet des fonderies et de leur promettre mots et merveilles. Mais enfin, ils ont mené et ils mènent à chaque fois la même politique que les États, que l'État français, au contraire de ce qu'ils disent. Ouais. Et à chaque fois, les régions, ça sert à donner des milliards aux grandes entreprises, des millions, pardon, aux grandes entreprises, sous couvert de l'emploi. Ou alors sous couvert de. Pour les lycées, pour les transports. C'est un fonds perdu pour les grandes entreprises. Et là, avec le Covid, ça va s'aggraver. Ils ont déjà annoncé qu'ils ont augmenté de 39% le budget de la région qui va être alloué aux grandes entreprises.
Mais pas forcément aux grandes entreprises. Oui, mais... Moi je pense aux lycées, par exemple. Les lycées, aujourd'hui, travaillent avec du circuit court pour la cantine. Ce n'est pas la grande entreprise qui fournit le lycée en viande, c'est l'agriculteur du coin. Donc c'est un peu caricatural ce que vous dites, non ?
C'est toujours la grande entreprise. Je ne crois pas, mais
localement,
vous savez,
en Suisse, on truffe le journal d'articles comme ça qui montrent qu'il y a des surplus.
Dès qu'on vous parle de grandes entreprises, vous me parlez de petites entreprises. Mais moi, je ne mélange pas les deux. Moi, je ne mélange pas le petit agriculteur.
Mais quand vous dites que la région augmente de 39% et tout, non, la
région travaille... Son budget aux entreprises, il faut regarder là où elle va aller. Les 39% d'augmentation, elles vont aller à quelles entreprises ?
Je ne sais pas, si vous le savez, moi, dites-le-moi.
Eh bien, voilà. Déjà, c'est même pas. Déjà, pour mettre son nez là-dedans, c'est très compliqué. Moi, je sais ce qui a été versé à la... Parce que ça a été rendu
public. À la fonderie de Bretagne.
À la fonderie de Bretagne, ils l'ont rendu public. Mais ce qui est sûr, c'est quand il y a des rénovations de lycées, par exemple, puisque c'est la région qui gère ça, c'est des grandes entreprises qui récupèrent le marché. C'est des boîtes comme Vinci ou leurs sous-traitants. Vous savez très bien.
Alors, il nous reste moins de 7 minutes dans cet échange. Il faudrait que l'on passe quand même un peu quelques questions, ou tout au moins avoir votre ressenti sur des questions régionales. La loi, Paul Molac, sur les lois régionales, vous en pensez quoi ?
Langue régionale.
Jeudi 8 avril, c'est adopté à l'Assemblée nationale, 247 voix pour. Simplement, le dimanche suivant, 62 députés de la majorité présidentielle décident de saisir le Conseil constitutionnel et il y a deux articles, 4 et 9, qui disparaissent, à savoir l'enseignement immersif dans le public et également les signes diacritiques dans l'état civil, comme le tilde. Le chef de l'État, hier, a fait un peu... machine arrière, en disant sur son compte Facebook, il demande au gouvernement et au Parlement de trouver les moyens de garantir, et je le cite, les transmissions de cette diversité linguistique largement reconnue depuis plus d'un demi-siècle. Vous vous en pensez quoi, cet enseignement immersif et on pense ici en Bretagne aux écoles d'Iwan créées en 1977.
Écoutez, pour les langues régionales, quelles qu'elles soient, pas forcément en Bretagne Corse, d'ailleurs, parce que moi, je n'ai pas...
Oui, Pays voilà, Basque, Corse,
je suis pas régionaliste,
non, mais c'est la vie que vous portez.
La vie que je porte, c'est qu'on pourrait, on devrait pouvoir, en effet, avoir accès, pour ceux que ça intéresse, à apprendre même des langues mortes. Des langues régionales, même des langues mortes.
Le latin.
Par exemple, oui, pourquoi pas. Ça devrait être possible. Par contre, moi, je pense que ça devrait être possible si c'était subventionné par l'État dans le cadre de l'école publique et non pas d'école privée.
Pour les écoles privées.
Exactement. Et par contre, sur la langue, parce que je reviens quand même... Bon, bien sûr, les langues régionales ou la langue bretonne ou autre, ça peut paraître... on peut s'en inquiéter. Maintenant, il faut quand même voir que beaucoup de jeunes dans les quartiers pauvres, y compris dans nos régions, ont du mal à savoir lire et écrire, même la langue qui sert le plus ici, puisque dans notre pays, celle qui sert le plus à échanger, c'est la langue française. Et donc, ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une question de moyens, tout ça. C'est une question de moyens, que ce soit pour la langue, les langues régionales ou la langue qui sert de parler là, dans notre pays. Mmh. Donc, le problème, il est quand même une question de moyens. Et les moyens dans l'éducation, on ne peut pas dire que les gouvernements précédents et ce gouvernement les ont diminués, mmh. en fait. Donc, moi, je privilégierais quand même mmh. le fait que chacun puisse avoir accès... tous les moyens pour bien parler la langue dans le pays dans lequel il vit.
On essaye d'avoir aussi des réponses à des questions très précises avec l'ensemble des candidates et des candidats. La Bretagne à 5, lutte ouvrière.
La Bretagne à 5, voilà.
pour ou contre. Vous soutenez.
J'avoue que ça m'est complètement égal. Je vais dire ni oui ni non, hein, ni pour ni contre. Je trouve ça, depuis que je me présente à ces élections, et puis ça revient sur le tapis, on amène ça comme un hochet, comme si ça pouvait changer quoi que ce soit. Vous savez, un chômeur qui va pointer à NPE de Saint-Nazaire ou parce que ça, la Loire Atlantique serait rattachée à la Bretagne ou pas, ça change quoi?
Mais en fait, c'est une question. C'est pas la question de ça, c'est la question de l'identité. Il y a des Bretons et des candidats qui sont très attachés à l'identité bretonne et qui estiment que la Loire-Atlantique doit être attachée.
Alors, tous les candidats, apparemment, sont attachés à cette identité. Nous, notre identité en tant que communistes révolutionnaires, c'est le drapeau rouge. Oui. Et c'est tous les travailleurs, unissez-vous.
Qu'ils soient bretons, américains, russes.
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est ça plutôt ce qu'on voudrait défendre. Parce que le risque de ce genre d'idées qui pullulent en ce moment, c'est de diviser les travailleurs. De diviser les travailleurs entre régions, entre départements, bientôt entre communes.
Je déjà crois pas que ce soit une question de travailleurs, c'est plus une question d'identité.
Oui, mais nous, on parle en tant que quels sont les intérêts des travailleurs pour se défendre nos intérêts, c'est pas du tout de se diviser par région ou par département ou par pays. Alors, ça, c'est très important pour le monde du travail.
Bien entendu. Autre question, question et réponse rapide. L'Assemblée de Bretagne. Essayez de mettre dans une même institution la région et d'y agréger les départements pour réduire un peu les strates. Une Assemblée de Bretagne, ça vous parle ou non ?
Non. Non, ça ne me parle pas plus qu'une Bretagne à 5. Enfin, bon...
Bon.
Non, ça sera si c'est comme le Parlement, parce que ceux qui défendent ça, c'est aussi pour dire à Paris, c'est quand même toujours l'idée. Bon ben, on est dirigé par Paris. Il nous faudrait notre propre assemblée ici en Bretagne. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas dirigé par Paris. On est dirigé par les actionnaires, par les bourgeois, qu'ils soient bretons, nantais, français ou américains ou anglais. Pinault, il est bien breton, Pinault. Sa fortune, elle a augmenté à Pinault.
Mais il crée des emplois. Il embauche.
Les actionnaires et les grands bourgeois, ils créent peut-être des emplois avec les aides de l'État. C'est eux les plus aidés. Et en plus, ils font leur fortune par l'exploitation. Donc, ceux qui dirigent l'économie et la société, ce n'est pas le Parlement de Paris ou même le gouvernement français. Ça ne sera pas plus une assemblée bretonne et une Bretagne à 5 qui protégera les travailleurs des capitalistes et de la bourgeoisie. C'est un mensonge. La seule chose qui nous protégera, ça sera nos luttes collectives et un programme de lutte qu'on doit mettre en avant pour nous, les travailleurs, pour défendre nos intérêts.
Il nous reste une minute. Les chemins de fer, c'est quelque chose qui vous parle ? Il faudrait réenclencher des lignes intérieures avoir une meilleure connexion de l'aménagement du territoire encore en région.
Bien sûr, mais enfin, c'est l'inverse qui se passe depuis des décennies, et pas qu'en région Bretagne. Hein. C'est malheureusement, des tas de lignes secondaires ont été fermées, l'État s'est désengagé, et d'ailleurs, ils sont en passe de privatiser le chemin de fer. Il y a eu des tas de lois qui sont passées depuis tous les gouvernements en ont passé successivement, jusqu'à la dernière en date par Hollande et Macron, ce qu'on a appelé les réformes ferroviaires. Je vous passe les détails. Et voilà, donc c'est plutôt l'inverse qui se passe. Donc moi, je fais confiance aux travailleurs et aux usagers pour se dévendre, pour avoir des meilleurs transports et le moins cher possible, et que ce soit payé aussi par le grand patronat, le transport.
Deux informations pour vous, Valérie Hamon, et puis pour les lecteurs et les téléspectateurs de TVR. Dès le début de la semaine, vous aurez les parenthèses de campagne de l'ensemble des candidates et des candidats, savoir qui ou qui elles sont, ils sont, leur rapport avec la Bretagne et puis leur rapport avec la politique. Papier dans Ouest France, module vidéo sur TVR et sur Ouest France, sur le site de Ouest France. Et puis, autre rendez-vous qu'on vous donne, Valérie Hamon, comme à l'ensemble des candidats, on se donnera rendez-vous mardi 15 juin à 12h30 en direct dans le très beau Palais des Congrès de Pontivy afin de débattre sur les grandes thématiques en région. Et nous y serons.
Exactement, on vous attend d'ailleurs.
Merci Valérie Hamon. Je rappelle que vous êtes tête de liste région de Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Merci à vous.
Merci.